Vous écoutez, on lit pour vous.
Quel impact sur vos habitudes en ligne? Un texte d'Alain McKenna, paru le 3 septembre 2025 dans la presse. La justice américaine a tranché. Google ne sera pas démantelé. Le géant numérique californien n'aura pas à se défaire de son navigateur Chrome ni de sa plateforme vidéo YouTube. Mais il devra ouvrir son moteur de recherche à la concurrence. Qu'est-ce qui change? Moins de choses que prévu. Dans sa décision du mardi 2 septembre 2025, le juge américain Amit Mehta a souligné les changements qu'a connus la recherche en ligne depuis le début de la poursuite contre Google en 2020. Les applications d'intelligence artificielle IA générative comme ChatGPT, DeepMind, crée une nouvelle concurrence à la recherche en ligne traditionnelle, dit-il. Ces entreprises sont déjà mieux placées pour rivaliser avec Google, à la fois financièrement et technologiquement, qu'aucune entreprise de recherche traditionnelle ne l'a été depuis des décennies, a indiqué le juge. Le résultat le plus notable est que Google devra mettre à la disposition de certains de ses concurrents certaines données de recherche et d'interaction avec ses utilisateurs. Qu'est-ce qui ne changera pas? Google pourrait demeurer le moteur de recherche par défaut sur les produits d'Apple et les mobiles Android, ainsi que sur le navigateur web Firefox. La justice américaine impose à Alphabet, société mère de Google, certaines limites sur ses ententes d'exclusivité avec ses partenaires, mais ne l'empêche pas de rémunérer des entreprises pour inclure ses services sur leurs appareils ou leurs logiciels. Le moteur de recherche Google pourra aussi être installé par défaut sur les produits de ses partenaires. L'analyste de Wedbush, Daniel Eaves, a indiqué dans une note aux investisseurs après la publication du jugement que c'est une victoire majeure pour Google, dont les activités ne seront pas bloquées dans leur forme actuelle. Le navigateur Chrome restera essentiellement inchangé. Google pourra continuer d'y intégrer ses services sans avoir à ajouter des options de sélection lors de son premier lancement. Google pourra évidemment continuer de collecter des données sur l'utilisation que font les internautes de son navigateur et de son moteur de recherche, entre autres. Qui sort gagnant de ce jugement? Google, bien entendu. Apple aussi, qui pourra se rabattre plus lourdement sur les outils d'IA de Google pour améliorer l'IA de son iPhone, de son iPad et de ses Mac, note Daniel Eaves. C'est un feu vert pour un partenariat plus intime entre Apple et Google autour de Gemini. Apple a lancé sa suite d'outils Apple Intelligence l'an dernier, sans grand succès, puisque ses fonctions les plus évoluées sont en réalité prises en charge par ChatGPT d'OpenAI. Ces automatisations qui étaient attendues à l'automne et qui ont été promises il y a un an par Apple ont été retardées d'au moins un an. Les rumeurs se faisaient vives sur la volonté d'Apple de trouver un autre partenaire qu'OpenAI pour améliorer ses produits. Le moteur de recherche Perplexity AI était cité comme un fournisseur potentiel pour son furteur Safari. Déjà proche de Google, Apple pourra se simplifier la tâche en adoptant plutôt Gemini. Qui sort perdant de ce jugement? Anthropic, OpenAI et Perplexity AI probablement. Ce sont les rivaux américains les plus proches de Google dans l'IA générative. Leur essor ces dernières années est ce qui a permis à Google d'éviter le démantèlement tant redouté. Dans un billet sur le blog de Google, sa vice-présidente aux affaires gouvernementales, Lee-Ann Mulholland, n'a pas manqué de souligner combien l'industrie de la recherche en ligne a changé ces dernières années en raison de l'émergence de l'IA qui offre plus de choix aux internautes pour trouver de l'information. Avec le jugement rendu mardi, les IA génératives continueront d'avoir la faveur des investisseurs, concluent les analystes. L'accès élargi aux données d'utilisation de Google les aidera à raffiner leur modèle, mais l'IA de Google en profitera aussi. Ça pourrait devenir un problème, convient la justice américaine, qui note dans son jugement qu'il faudra prévenir Google de ne pas recourir aux mêmes tactiques anticoncurrentielles pour son IA générative que celles qu'elle a utilisées dans la recherche en ligne, afin de protéger les autres IA génératives. C'était « Quel impact sur vos habitudes en ligne ?» un texte d'Alain McKenna, paru le 3 septembre 2025 dans La Presse.
Un paysage spectaculaire, les chutes Montmorency, par Yves Hébert, paru dans la revue Reflet, décembre 2019. Les chutes Montmorency piquent la curiosité des visiteurs et des amants de la nature depuis plus de 200 ans. D'une hauteur de 275 pieds, 83,8 mètres, elles offrent un spectacle saisissant. Samuel de Champlain les désigne sous le nom de « sauts de Montmorency » pour rappeler l'importance d'Henri II, duc de Montmorency, amiral de France et vice-roi de la Nouvelle-France de 1620 à 1625. À partir des années 1780, les visiteurs de passage à Québec réalisent de petites excursions en carriole ou en calèche pour admirer ces chutes. On s'y rend pour contempler l'effet spectaculaire de la chute et sentir les embruns provoqués par la cascade des eaux de la rivière Montmorency. Parmi les voyageurs célèbres ayant relaté leur passage sur le site, mentionnons l'écrivain américain Henry David Thoreau, 1817-1862, et le naturaliste John James Audubon, 1785-1851. Inspirés par la beauté des lieux, de nombreux peintres paysagistes établissent une tradition artistique qui se poursuit encore aujourd'hui. On ne compte plus les aquarelles, huiles et dessins illustrant les environs des chutes en période estivale ou hivernale. Mentionnons celle de James Pattison Cockburn, 1779-1847, de George Bulteel Fisher, 1764-1834, et de Cornelius Kriegov, 1815-1872. Le cône de neige formé au pied des chutes, l'hiver, est un attrait touristique depuis plusieurs décennies. Les habitants de Québec et de Beauport s'y rencontrent lorsque le temps est clément. Au contact de l'air, les embruns se cristallisent pour ensuite former ce cône que l'on appelle le pain de sucre. Dans les années 1880, le curé de Beauport détestait cet endroit, car selon lui, c'était un lieu de rencontre et d'amusement déplorable. La construction d'une petite centrale électrique au sommet de la chute en 1885 entraîne toutefois la disparition de cette curiosité hivernale. Après la fermeture de cette centrale en 1964 par Hydro-Québec, on assiste de nouveau à la formation du pain de sucre. Intégré au réseau de la CEPAC, le parc de la chute Montmorency représente aujourd'hui un attrait touristique d'importance dans la région de Québec. C'était « Un paysage spectaculaire, les chutes Montmorency » par Yves Hébert, paru dans la revue Reflet, décembre 2019.
Le kombucha, de la production à l'économusée. Un texte d'Ariane Arpin-Delorme, paru le 4 novembre 2023 dans le magazine Caribou. Si on ne connaissait ici pratiquement rien du kombucha il y a une vingtaine d'années, cette boisson fermentée s'est depuis taillée une place de choix sur le marché mondial. Et au Québec, sur les tablettes, les variétés de kombucha disponibles ont explosé depuis quelques années. À Saint-Tite-des-Caps, dans la région de la capitale nationale, la bioferme des Caps entend faire encore plus de place à ce breuvage grâce au premier économusée du kombucha, dont l'ouverture est prévue pour 2024. C'est au cours des dernières années que le kombucha a connu son heure de gloire dans les pays occidentaux. Pourtant, cette boisson fermentée n'est pas nouvelle. Ses origines restent incertaines, mais il est probable que le premier kombucha soit apparu spontanément grâce à un phénomène naturel, il y a près de 5000 ans en Chine. Le breuvage fermenté sucré et légèrement effervescent est préparé à partir de thé, de sucre et d'une mère de kombucha, soit une culture de bactéries et de levures qui vivent en symbiose. Passionné de nature. Vaste territoire de 83 hectares regorgeant d'arbres fruitiers, d'herbes et d'arbustes, la bioferme des Caps, à Saint-Tite-des-Caps, entre Québec et Charlevoix, souffle ses 15 bougies cette année. La ferme, tenue par Dominique Bouchard et sa fille Julie Desrosiers, est axée depuis ses débuts sur la permaculture, la valorisation de la biodiversité et l'équilibre entre l'humain et la nature. C'est en 2013 que Dominique fait ses premiers tests de kombucha élaborés avec ses cultures biologiques. À l'époque, la boisson millénaire est encore méconnue au Québec et la fondatrice de la ferme se donne comme mission de faire découvrir les bienfaits du breuvage. C'est ainsi qu'est née la marque Korzen, qui signifie « racine » en polonais, seul kombucha à être certifié « aliment du Québec bio » grâce à ses ingrédients majoritairement biologiques qui proviennent de la ferme. Pommes et amélanches, argousiers, sureaux, mélisse et menthe. Les kombucha Korzen sont inspirés du terroir et produits de façon artisanale à la ferme. La ferme a aussi élaboré des kombuchas santé, plus rares, dans lesquels les feuilles d'épilobe et d'argousier le remplacent. Le fait d'utiliser la feuille d'épilobe au lieu de feuilles de thé venues d'ailleurs rend notre kombucha 90% local. Le goût est très similaire au thé, mais sans l'effet stimulant, explique Dominique. Un savoir-faire à faire découvrir. C'est entre autres pour partager ce savoir-faire lié au kombucha ainsi que sa passion pour l'agriculture et la nature que l'équipe de la Bioferme des Caps travaille sur un projet d'économusée qui devrait voir le jour en 2024 sur les lieux de la ferme, le premier au Québec portant sur le kombucha. Une campagne de sociofinancement qui a permis d'amasser plus de 6 000 $ a d'ailleurs pris fin en septembre afin de soutenir le projet. Des travaux importants pour l'aménagement des bâtiments d'accueil seront effectués dans les prochains mois afin de répondre aux exigences de la Société du réseau des économusées du Québec. En échange, celle-ci nous apporte déjà son soutien quant à la planification des espaces et à la mise en œuvre d'un parcours multimédia et numérique attrayant qui permettra de se familiariser avec le procédé de transformation du kombucha, mais aussi avec la permaculture, les bienfaits des plantes et certaines méthodes de conservation, dont la fermentation, dit Dominique. Ce nouvel économusée viendra bonifier l'offre de la ferme, qui propose déjà des dégustations, des sentiers pédestres et un parcours d'interprétation des plantes. Nous souhaitons offrir un heureux mélange de nature, de culture, de ludique et de découverte de la région, ajoute Dominique avec enthousiasme. Site web biofermedescaps.com biofermedescaps.com. Qu'est-ce qu'un économusée? Un économusée est une entreprise qui permet la mise en valeur des artisans et de leurs métiers traditionnels par le partage de leur savoir-faire aux visiteurs. on retrouve au Québec une cinquantaine d'économusées qui mettent en valeur différents savoir-faire, dont plusieurs sont liés à l'alimentation. Économusée des brasseurs, de la confiturière, de la fromagerie fermière, de la boulangerie ou de l'apiculteur font entre autres partie du réseau. Pour en savoir plus sur les économusées, visitez le site web artisansalœuvre.com. artisansalœuvre.com. Deux nouveaux économusées à découvrir. Économusée de la conserverie de Cambrise, Cambrise Mistook. En juin 2023, le premier économusée dédié à la Cambrise a été inauguré à La Brèque, au lac Saint-Jean. Une nouvelle boutique remplie de produits à la Cambrise, un circuit d'interprétation extérieure et une visite aux champs ont été ajoutés à l'offre d'autocueillettes déjà existante. 4645, deuxième rang, La Brèque. Site web camrisemistouk.com. CAMERISESMISTOUK.COM. Économusée de la biscuitière Léon et Lily. La biscuiterie chez Léon et Lily est, depuis juillet, un économusée de la biscuitière. Inspirée des biscuiteries normandes et bretonnes, elle permet, lors d'un arrêt à Saint-Irénée dans Charlevoix, d'en apprendre davantage sur l'histoire des biscuits dans le monde jusqu'à leur confection, ici, dans Charlevoix. 180 Chemin des Bains, Saint-Irénée. Site web chez leonetlily.com. CHZLEONETLILY.COM. C'était Le kombucha, de la production à l'économusée, un texte d'Ariane Arpin-Delorme paru le 4 novembre 2023 dans le magazine Caribou.
Touristes et voyageurs, par Mathieu Bellil. Paru dans la revue L'Inconvénient, automne 2023. Peut-on encore voyager? La question posée par ce numéro peut paraître saugrenue ou seulement naïve quand on pense à l'enthousiasme avec lequel les touristes ont repris la route des vacances depuis que les autorités ont levé les dernières restrictions imposées durant la pandémie. Rappelons-nous la fameuse crise des passeports à l'été 2002, alors que la fonction publique canadienne était débordée de toutes parts par l'afflux sans précédent de demandes de renouvellement de ces précieux permis de voyager. Et n'oublions pas l'été 2023, qui fut celui de tous les records. Le 6 juillet dernier, en effet, le record de tous les temps quant au nombre de vols a été battu. En une seule journée, plus de 134 000 vols commerciaux ont été enregistrés à l'échelle de la planète, en plus des 10 000 vols en jet privé, ce qui dépasse la marque précédente établie en 2019, juste avant la pandémie. Et, comme par hasard, ce record du nombre de vols a été établi au cours de la journée la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, ce même 6 juillet 2023, alors que la température moyenne atteignait les 17,08 degrés Celsius. Une autre preuve, pour qui en doutait encore, que notre mode de vie est insoutenable. Et pourtant, au vu des données, la question posée par ce numéro a quelque chose de rhétorique. Bien sûr, on entend de plus en plus souvent dans les conversations et sur les réseaux sociaux ce genre d'admission coupable. Oui, je sais, c'est horrible de prendre l'avion. Mon bilan carbone a explosé. Je ne suis pas fière de moi. Je vais devoir trouver des solutions, faire une pause, etc. Mais de tels aveux ne changent rien à la réalité. Un peu comme la reconnaissance de ces privilèges demeure essentiellement performative. Oui, je sais qu'en tant qu'homme blanc ou femme blanche, je fais partie des privilégiés. car dans les faits, dans un cas comme dans l'autre, il n'est pas question de renoncer à quoi que ce soit. C'est pourquoi la question du voyage nourrit une mauvaise conscience, une sorte de culpabilité de façade qu'il convient de réactiver avant son départ, comme après son retour, afin d'observer une forme rituelle de pénitence. Cette mauvaise conscience, qui est aussi, reconnaissons-le, une affaire de classe, de moyenne à privilégier, tient de la ruse sociale. Elle permet de reconnaître une faute qu'on a l'intention de commettre à nouveau. Mais la question du voyage est en vérité plus compliquée. Car dans un monde placé sous haute surveillance par des milliards de caméras, quadrillé par d'innombrables satellites qui communiquent entre eux et avec nos appareils, un monde dont les moindres recoins ont été répertoriés et fichés par Google Earth et Google Street View, où les mêmes grandes chaînes, les mêmes bannières, les mêmes vedettes et tendances, les mêmes nouvelles et les mêmes discours se reproduisent et triomphent presque sans partage, on peut se demander s'il est encore possible de vivre un véritable dépaysement. Le voyage est-il vraiment le voyage ou la simple illusion d'un voyage? Est-il encore possible de se mesurer à l'inconnu, de vivre un choc, esthétique et humain, qui bouleverse nos repères et force les remises en question, ou bien sommes-nous appelés à nous mouvoir hors de toute altérité, au sein du grand même? À l'évidence, le voyage touristique n'a plus rien à voir aujourd'hui avec les grandes explorations de jadis, et on voit mal comment on pourrait, à l'image de Marco Polo, de Jacques Cartier ou de Tocqueville en leur temps, en faire un récit qui intéresse qui que ce soit, en dehors des quelques proches et amis qui ont la patience de nous écouter et de regarder une par une les photos que nous avons rapportées. Le plus souvent, les voyageurs évoluent à l'intérieur de circuits artificiels préparés pour eux. Ils forment avec les autres voyageurs une communauté distincte, une sorte de classe touristique qui suit des itinéraires précis, chemine de lieux incontournables, en monuments à ne pas manquer, dixit les guides de voyage, traverse une série de non-lieux, des espaces de transit et de consommation conçus sur le même modèle, dont il s'agit d'éliminer toute différence, tout écart, les aéroports, les gares et les centres d'achat, partout les mêmes. Les voyageurs mangent une nourriture adaptée à leur goût, souvent la même que dans leur pays d'origine, évoluent dans des zones qui communiquent assez peu avec le reste du pays, des zones désertées par les locaux, que l'industrie du voyage s'emploie pourtant à présenter comme typiques et pittoresques. En voyage, les contacts avec la population locale se font rares et reposent parfois sur des malentendus. Les membres du personnel au service des voyageurs, dans les restaurants, les taxis, les hôtels et les aéroports, sont souvent eux-mêmes des déplacés, des travailleurs migrants ou apatrides qui entretiennent peu de liens avec la vie nationale et qui ont pourtant la charge de la représenter. Je pense à ces femmes employées à l'entretien ménager d'un hôtel du Vieux-Québec où j'ai séjourné l'été dernier avec ma famille, venues directement d'Amérique centrale, qui ne parlaient ni français ni anglais, elles-mêmes, des sortes de touristes, mais situées tout en bas de l'échelle, appelées à servir d'autres touristes. Bien sûr, on peut encore, si on dispose d'un peu de temps et d'énergie, faire l'effort de sortir des sentiers battus, partir en quête des destinations les plus inattendues, mettre tout en œuvre pour se lier à des habitants du pays visité, adopter leurs coutumes, découvrir leur histoire et l'actualité du territoire, apprendre la langue et s'y exercer, même si ces efforts héroïques risquent de ne tromper personne. Et peut-être convient-il, pour ce faire, de distinguer plus nettement le touriste du voyageur, de renoncer à la condition de touriste, lequel sait d'avance ce qu'il veut voir, en même temps qu'il accepte de se laisser mener bêtement d'un point à l'autre, pour embrasser la condition de voyageur, capable de se laisser émouvoir par l'imprévu et de voir ses plans bouleversés, au point, qui sait, de vivre le coup de foudre et de choisir de faire du pays visité sa nouvelle demeure. Je pense à ces mots de Chesterton. « The traveler sees what he sees. The tourist sees what he has come to see. » Mais peut-être convient-il surtout, dans ce monde qui part en fumée, de redécouvrir les charmes de la sédentarité, de renouer avec le vieil idéal de l'enracinement, de se tourner vers le pays proche, ou même de reconnaître, avec Pessoa, que les plus beaux voyages sont ceux que l'on fait en pensée. Voyager? Pour voyager, il suffit d'exister. Je vais d'un jour à l'autre, comme d'une gare à l'autre, dans le train de mon corps ou de ma destinée, penché sur les rues et les places, sur les visages et les gestes, toujours semblables, toujours différents, comme, du reste, le sont les paysages. Si j'imagine, je vois. Que fais-je de plus en voyageant? Seule une extrême faiblesse de l'imagination peut justifier que l'on ait à se déplacer pour sentir. À quoi bon voyager? À Madrid, à Berlin, en Perse, en Chine, à chacun des pôles, où serais-je, sinon en moi-même, et enfermé dans mon type et mon genre propre de sensations? La vie est ce que nous en faisons. Les voyages, ce sont les voyageurs eux-mêmes. Ce que nous voyons n'est pas fait de ce que nous voyons, mais de ce que nous sommes. C'était « Touristes et voyageurs » par Mathieu Bellil, paru dans la revue L'Inconvénient, automne 2023.